France Inter, le 18-20.
Il n'y a pas si longtemps, franchement, il vivait dans une belle indifférence, ce pauvre T-Rex. Enfin, vivait, évidemment, je me comprends. À part les enfants de 4 ans et un peu plus, étonnamment doués pour retenir les noms de tous les dinosaures, à part les paléontologues, évidemment, qui s'intéressaient à cette bête d'apparence carrément pataude, assez moche, disons-le franchement, une tête intégralement disproportionnée, des pattes avant, je ne vous en parle même pas. On n'est d'ailleurs pas tout à fait d'accord autour de cette table sur cette histoire de pattes avant. Bref, il y a eu Jurassic Park. Et tout a changé. Juste avant aussi, un petit dessin animé qu'Antoine, le stagiaire du 18-20, voulait absolument que je cite, donc je le fais puisque c'est son anniversaire. Mais sinon, Jurassic Park et tout a changé ces 25 dernières années. Voilà que cet animal est devenu la terreur du Crétacé, une bête sanguinaire et aussi fascinante, le spécimen de dinosaure exceptionnel. Les paléontologues, évidemment, eux, le savaient déjà. Et trouver un spécimen aussi complet que celui que vous pouvez voir à partir de ce mercredi au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est une sorte de Graal. On a encore 1000 choses à apprendre, ou peut-être un peu moins, de cette bête finalement. Peut-être moins bas de plafond qu'elle en a l'air, on en parlera aussi. Plus véloce, en tout cas, toujours aussi fascinante. Car oui, comment vivaient ces grands animaux? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui chez nous, chez les crocodiles, chez les oiseaux? Qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre pour mieux apprendre aussi de notre planète? Eh bien, c'est le moment de poser toutes les questions que vous avez en tête. Le T-Rex du Muséum d'Histoire Naturelle est une T-Rex d'ailleurs, et malgré ses tout petits bras, elle répond au téléphone.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Allez François, c'est à vous. Bonsoir et soyez le bienvenu.
Bonsoir. Ma question est assez simple en fait. Je voulais savoir s'il était possible de faire des fouilles en France et de trouver des T-Rex. Est-ce que c'est un animal qui, à l'époque où il vivait sur Terre, est susceptible d'être retrouvé dans nos contrées?
Eh ben, écoutez, voilà une question concrète. Dans nos contrées, merci beaucoup, François, pour vous répondre. Tout le Muséum National d'Histoire Naturelle est là autour de la table, donc vous aurez vos réponses. Bonsoir, Ronan Alain.
Bonsoir.
Vous êtes paléontologue, commissaire scientifique de l'exposition Un T-Rex à Paris dans ce Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonsoir, Bruno David.
Bonsoir.
Vous êtes paléontologue, président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et bonsoir, Sophie Bécherel.
Bonsoir.
Vous êtes la spécialiste sciences de France Inter. Ronan Alain, pour répondre à François, est-ce qu'on pourrait trouver des morceaux, des traces de T-Rex chez nous ou pas?
Alors, du Tyrannosaurus rex sensu stricto, non, ça va pas être possible. C'est un animal qui vivait simplement en Amérique du Nord. Donc, on a un petit bout au Canada, un petit bout dans les États nord-américains, donc Utah, Wyoming, Dakota. Alors, en France, on a d'autres animaux à la même époque, des gros carnivores, un peu moins gros que le T-Rex, malheureusement, sinon il serait célèbre. On a des animaux qui appartiennent à une famille qu'on appelle les Abelisauridés. Et donc, il y a eu un très beau spécimen trouvé qui s'appelait Arcovenator, qui a été trouvé en France et décrit il y a, je vais peut-être dire des bêtises, mais 2-3 ans à peu près. Donc, c'est des spécimens, ça reste encore des squelettes qui sont quand même relativement peu complets. On est sur des morceaux de crâne, sur quelques os. Enfin, je vais dire, le béaba pour le paléontologue normal, c'est de travailler sur des squelettes complets à 15%,
mais
pas à 75%.
Est-ce qu'on sait pourquoi il avait élu domicile dans ce qu'est aujourd'hui l'Amérique du Nord, le T-Rex?
Alors, deuxième partie de la question, c'est si on remonte aux origines du T-Rex. Donc là, on fait un bond encore dans le temps, on remonte à 165 millions d'années. Et alors là, il y a 165 millions d'années, en France, vous avez, enfin en France, en Angleterre, pardon, vous avez les ancêtres, les premiers membres de la lignée du tyrannosaure. Vous avez un animal qui s'appelle Proceratosaurus, qui vivait dans le bâtonien, donc le jurassique moyen d'Angleterre. Et cet animal a été identifié comme un des premiers membres de la lignée des tyrannosaures. Donc pendant 100 millions d'années, les tyrannosaures se sont baladés un petit peu partout sur la planète. Et à la fin du Crétacé, on ne les retrouve que en Asie et en Amérique du Nord, mais le Tyrannosaurus rex, donc le gros Tyrannosaurus, lui n'est présent vraiment qu'en Amérique du Nord.
Parce que, en gros, Bruno David, c'était quoi? C'était des portions un peu plus congrues de T-Rex, finalement, qu'on trouvait dans ces contrées-là, avant de tomber sur ce qu'est aujourd'hui l'animal qu'on peut voir chez
nous. Non, l'espèce T-Rex, Tyrannosaurus rex, elle est vraiment présente qu'en Amérique du Nord. Mais je vais faire une comparaison avec l'actuel. Aujourd'hui, vous avez des éléphants en Afrique et en Asie, vous n'avez pas d'éléphants en Amérique. Pourtant, dans un passé pas si lointain pour un paléontologue, il y a eu aussi des ancêtres des éléphants en Amérique. Donc vous voyez, la biodiversité, elle n'est pas répartie au hasard sur Terre pour différentes raisons, des raisons climatiques, des raisons écologiques, des raisons géographiques, spatiales, il y a des océans qui séparent des continents. Et pour toutes ces raisons-là, il n'y a pas eu de T-Rex en Europe. Même s'il y a eu des ancêtres du T-Rex en Europe, il n'y a pas eu le T-Rex en Europe.
Sophie Bécherel,
néanmoins, il y a des gros fossiles en France. Alors peut-être pas des squelettes complets, mais il y a eu des grosses bêtes.
Alors oui, il y a eu des grosses bêtes. On peut fouiller aussi en France et trouver d'autres. Tous les paléontologues ne cherchent pas des Tyrannosaurus rex, heureusement.
Vous cherchez tous des grosses bêtes, mais
pas toujours. Enfin, si, quand on a une grosse bête, on le dit quand même. Donc là, on a des gisements français qui sont exploités depuis près de 2 siècles. Ça a commencé par la Normandie du temps de Cuvier. Ça a continué un petit peu du côté de la Lorraine. Et puis, on a surtout des dinosaures dans le sud de la France. Donc, on a toute une espèce de banane qui va depuis l'Aude, depuis Carcassonne jusqu'au Var. Et plus récemment, on travaille, nous, en Charente, depuis 2010, où là, en Jacques-Charente, on a des gisements qui sont, on va dire, 30 millions, 40 millions d'années, même avant le T-Rex, et qui vont livrer des grands dinosaures sauropodes, des dinosaures autruches, enfin, tout un tas d'animaux, y compris des tout petits animaux, des mammifères, des grenouilles, des tortues, donc des écosystèmes complets du Crétacé qu'on peut étudier.
Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute Stéphane, soyez le bienvenu.
Oui, merci. J'entends parler depuis ce matin donc d'un squelette qui aurait, si j'ai bien compris, 68 millions d'années. Et je me demandais si finalement, au bout de ce temps-là, c'était vraiment un squelette en os ou si la matière organique avait complètement disparu et qu'en réalité, c'était que de la matière minérale, c'est-à-dire que tout avait été fossilisé. Voilà, c'est ma question.
Et merci pour votre question, Stéphane. Ronan Alain, c'est que de l'os ?
C'est que du minéral. En fait, le processus de fossilisation est en grande partie une espèce de minéralisation des spécimens. Par contre, ce qui est très important, c'est que les structures internes se conservent. Donc, quand vous avez un os, l'os va se minéraliser et on va conserver toute la structure de l'os. Donc, l'os est quasiment à l'identique. Il garde sa forme et il garde des informations qu'il porte. Après, il y a des cellules qui peuvent aussi se fossiliser. On a des cas exceptionnels où on peut fossiliser des plumes, on peut fossiliser des poils. C'est surtout des empreintes qu'on va avoir. Donc, on a toute une gamme différente de fossilisation, mais dans le cas des T-Rex, on a bien un os qui s'est minéralisé, qui s'est transformé en pierre, la pétrification.
Il n'y a plus de moelle osseuse, hein, rassurez-vous.
Alors non, il n'y a plus de moelle osseuse, il n'y a plus d'ADN.
Non, mais la question en creux, c'est celle-là, en fait. La question de Stéphane, alors, j'imagine, c'est la question de l'ADN. C'est Jurassic Park, bah, il a raison, moi aussi j'aurais cette question.
On va lui tordre le cou tout de suite. Je crois qu'il y a une étude assez récente qui est sortie sur l'ADN fossile. Les plus vieux ADN fossiles, si je ne dis pas de bêtises, datent d'à peu près 800 000 ans, ça doit être des ADN de chevaux. Et je crois qu'il y a une étude qui est sortie l'année dernière, on a travaillé sur l'ADN fossile et il semblerait que l'ADN se dégrade au bout de 2 millions d'années. Donc on ne pourra pas trouver d'ADN plus vieux que 2 millions d'années. Peut-être des fragments, mais pas d'ADN complet. Donc pas d'ADN de dinosaures.
Bruno David, ce qui est fascinant quand on regarde le squelette que moi j'ai eu la chance de voir un peu avant tout le monde, c'est qu'il y a des bouts qui sont refaits, en fait. Il y a des petits endroits, enfin un certain nombre d'endroits qui sont en fait refaits en 3D, finalement, pour qu'on puisse montrer la totalité, parce qu'on est à combien
75%.
Voilà. Donc pour arriver quasiment à 100%, on a fait de l'impression 3D.
Moi, je pense que ce qu'il y a vraiment d'extraordinaire, c'est qu'il est complet à 75%. C'est plutôt ça, parce que le dinosaure lambda qui va mourir, un animal continental, un dinosaure continental, il va être attaqué par les charognards dès qu'il est mort, il va être dispersé éventuellement par d'autres dinosaures charognards, ou par même d'autres T-Rex même qui étaient assez... qui mangeaient un petit peu de tout. Donc il va être dispersé, et son destin, c'est de disparaître complètement. C'est pas d'être fossilisé. Et d'être fossilisé à 75%, ça suppose une série de hasards heureux qui font que le squelette finalement est préservé.
Mais quoi, par exemple, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en trouve autant? Alors, d'ailleurs, les quatre que vous avez trouvés.
Il faut que l'animal meure à côté d'un endroit comme un marécage, ou en tout cas un endroit où il soit recouvert assez rapidement par une autre couche de sédiments. En l'occurrence, pour Trix, ça a sans doute été un sédiment un petit peu sableux qui l'a recouverte, qui a permis qu'elle soit non déformée, parce que c'est ça aussi qui est totalement exceptionnel. C'est que c'est sans doute le plus beau crâne de T-Rex qu'on ait jamais trouvé au monde, parce que c'est un crâne qui est absolument non déformé. Et puis, je voudrais insister sur un aspect.
Vas-y.
Qui pour moi, m'émeut beaucoup, parce que c'est un individu bien spécifique de T-Rex. Et en tant qu'individu, il est porteur de son histoire, cet individu. Donc on sait que c'est une femelle. Ronan pourrait nous en dire beaucoup plus là-dessus. On sait qu'elle a été attaquée par un autre T-Rex au cours de sa vie. Elle a 3 traces de morsures sur le côté gauche de sa mandibule. Elle a eu une nécrose un petit peu au niveau de son museau.
Une petite infection sur le nez, ouais.
Une petite infection sur le nez qui a guéri. Elle a eu sans doute des côtes fêlées qui se sont ressoudées avec une petite surépaisseur osseuse. Vous voyez, on commence à raconter son histoire individuelle. Et puis, comme ça a fini par être une vieille dame d'une trentaine d'années, pour un T-Rex, c'est respectable. Elle a eu aussi de l'arthrose vertébrale au niveau des vertèbres de sa queue. Sa 21e vertèbre, elle est un petit peu corrodée. Donc elle devait souffrir un petit peu, cette pauvre bête.
Alors justement, Ronan Alain, moi c'est son histoire individuelle qui me fascine en fait. Qu'est-ce qu'on sait de la manière dont ces animaux vivaient? Par exemple, elle, Trix, est-ce qu'elle se promenait toute seule? Est-ce qu'elle avait des congénères autour d'elle? Elle a forcément fait des enfants, j'imagine, pondu des œufs. Est-ce que on garde ses enfants quand on est un T-Rex, ou est-ce que on les laisse se débrouiller très rapidement dans la vie? Ça se passe comment, la vie d'un T-Rex à l'époque?
Alors la vie d'un T-Rex, le début de la vie d'un T-Rex, on est encore un petit peu dans le flou, je dirais, parce qu'on n'a jamais réussi à identifier une ponte de T-Rex avérée. Mm-hmm. Donc on a des petits spécimens, on a des os qui sont de plus petite taille, mais on n'a pas vraiment les débuts de la vie du T-Rex. Alors on a quand même d'autres œufs plutôt de dinosaures, en particulier de dinosaures carnivores, et donc on sait que le petit T-Rex devait pas mesurer plus de 30 cm ou 40 cm à la sortie de la coquille, à la naissance.
Très mignon.
Ouais. Très très joli, oui, il était vraiment mignon, on avait envie de l'adopter.
Après,
le problème c'est que voilà, après ça se gâte. Et le problème c'est que maman T-Rex ou même papa T-Rex pouvait difficilement s'en occuper vu les différences de taille.
Mais pardon de vous interrompre, on sait s'il y a maman T-Rex et papa T-Rex comme vous dites, mais réellement, enfin je veux dire qu'il y a les deux. Alors à un moment il y a eu un papa et une maman, voilà. On est d'accord.
Non, après...
Mais ce que je veux dire c'est que est-ce que ça marche en couple un T-Rex?
Non, alors justement, on sait très peu de choses sur la vie sociale du T-Rex, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a même pas de preuves, on n'a pas de gisements, même si on a trouvé effectivement beaucoup de T-Rex toujours dans la même formation géologique. Depuis qu'on trouve les T-Rex, on en a trouvé à peu près une cinquantaine de spécimens différents, on n'a jamais trouvé deux en même temps. Donc ça questionne un petit peu. Le problème c'est que les spécimens justement qu'on a trouvé, la plupart sont des spécimens adultes, et on sait que les prédateurs, quand ils deviennent adultes, en particulier les mâles, ont tendance à quitter la structure sociale et puis aller se balader tout seul. Donc la question serait de trouver des petits T-Rex, c'est peut-être de trouver ce qu'on appelle des nurseries, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans le vivant, les requins font ça, et on sait que certains dinosaures le faisaient, se regroupaient pour pondre, et les petits vivaient ensemble leurs premières années, avant ensuite de s'émanciper et de sortir du troupeau.
Mais eux après vivaient, sortir du troupeau, donc ça veut dire qu'il y avait troupeau de T-Rex en fait.
On sait pas,
qu'il y avait
pour le T-Rex on le sait pas, pour d'autres dinosaures on le sait.
Sophie ?
Sur comment il vivait, il y a quand même une question étonnante. 30 cm à la naissance et un truc phénoménal à 30 ans, à l'âge adulte, donc c'est une croissance.
Il grandissait très très vite.
Oui. Mais est-ce qu'on sait l'expliquer? On n'a pas non plus la
physiologie. Ils grandissaient très vite, on a une idée de leur dynamique de croissance quand même, puis on a une idée de ce qu'ils mangeaient.
Mais du coup, il faut manger combien?
Dans l'exposition, si vous avez vu, à la fin de l'exposition, il y a une grande balance et on peut monter, toute la famille peut monter ensemble sur la balance et regarder le poids de la famille, combien de jours
de
nourriture.
Avec moi, il y a un jour et demi. D'ailleurs, j'étais un peu vexée, pour tout vous dire.
Oh bah, tant que ça, là, c'est 50 kilos de viande par jour pour un T-Rex. Moi, c'est ce que j'ai noté. Donc, on est monté à plusieurs sur la balance. On s'est dit, on va pas le nourrir longtemps, cette pauvre bête.
Là, c'est sur les pics de croissance, on est à partir de 5-6 ans jusqu'à 10-12 ans, l'animal va prendre jusqu'à 2 kilos par jour. Et là, effectivement, il va se nourrir. Alors, on parle de 50 kilos de viande par jour. Alors, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Le T-Rex, quand il est adulte, va aller chasser un gros dinosaure, puisqu'il est fait pour ça, vu la taille de l'animal. Il va se nourrir, et comme la plupart des reptiles, après, il va être tranquille pendant 15 jours ou 3 semaines.
J'allais vous demander, c'est une question ridicule, mais est-ce qu'il mange tout? Enfin, je veux dire, une fois qu'il a fait l'un des congénères dinosaures, effectivement, ça peut lui faire sa semaine, ce qu'il aura mangé par ailleurs.
Il y a des choses qu'on remarque moins dans le spécimen. On est fasciné par les dents, on est fasciné par la tête, éventuellement par la taille des pattes arrière. Ce qui me fascine aussi, moi, c'est la taille de la cage thoracique et de la cavité abdominale qui va avec. C'est absolument gigantesque. Donc, ça rejoint ce que dit Ronan, c'est-à-dire qu'il devait pouvoir avoir des capacités d'accumulation de nourriture, un peu comme un crocodile aujourd'hui, et puis après se passer de manger et passer à la phase digestion pendant un bon moment. Mais il devait avoir des poumons assez formidables, un cœur quand même assez efficace, et puis un système digestif remarquable.
Il a des poumons formidables, ça veut dire qu'il poussait des gros cris, sérieusement ?
On a reconstitué les cris, en tout cas on les reconstitue dans l'exposition.
On a justement, on discutait avec Edgar Niculo qui a fait la bande originale qu'on entendait ce matin d'ailleurs, et donc Edgar m'a dit qu'il a regardé un petit peu parce qu'il fallait qu'il recrée le cri du T-Rex. Et il m'a dit, mais j'ai regardé tous les reptiles en fait, quand ils font du bruit, les reptiles ils ouvrent jamais la bouche. Donc le T-Rex qui ouvre la bouche dans Jurassic Park et qui hurle, ça marche pas. En fait, probablement le T-Rex devait fermer la bouche et utiliser son crâne comme une caisse de résonance pour émettre des gros grognements et toute une gamme de grésonnements grognements à des octaves probablement très 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 élevées.
Mais maintenant vous le dites, effectivement dans la famille des reptiles notamment, moi j'ai rarement entendu hurler un crocodile, donc je me dis que tout ça se tient finalement. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir.
Bonsoir, soyez le bienvenu Jean-Baptiste.
Merci bien. Merci pour vos émissions. Alors moi j'avais juste une question toute bête, savoir quel était le mode de reproduction des tyrannosaures.
Alors, on vit pas.
Merci Jean-Baptiste. Bruno David, ça pond un œuf. Donc, hein,
voilà, il pondait des œufs, comme des grosses poules, en fait. Donc il y avait des sexes séparés, il y avait des mâles, il y avait des femelles, il y avait un accouplement, et puis la femelle avait des œufs et pondait des œufs. Et puis au bout d'un certain temps, il y avait des petits qui sortaient de ces œufs, et les œufs ne sont pas effectivement gigantesques. Hein. Les œufs de dinosaures qu'on a, on en a dans le sud de la France notamment, hein, dans la région de Marseille, par exemple, sont des œufs qui font effectivement, qui sont elliptiques souvent, et qui font une quarantaine de centimètres. Donc vous imaginez effectivement un petit animal à l'intérieur qui faisait une trentaine de centimètres à la naissance. Mais c'était un joli petit bébé T-Rex. Hein.
Les dernières études, nous demande cet auditeur sur franceinter.fr, semblent confirmer que les dinosaures avaient une sorte de duvet et des plumes. Qu'en est-il du T-Rex ? Pas de duvet, pas de plumes, Bruno David, si ?
Non, pas le T-Rex, d'après ce qu'on en sait, il n'avait pas de plumes. Ce n'était pas un dinosaure à plumes.
Ni plumes, ni poils.
Il n'est pas réputé pour être un dinosaure à plumes, en tout cas pas beaucoup de plumes. Même s'il est représenté parfois avec quelques plumes au niveau des coudes ou au niveau de la tête, on peut voir des représentations comme ça. Je ne pense pas qu'on ait trouvé de plumes sur un T-Rex directement. Par contre, on a trouvé des plumes de dinosaures, effectivement, assez anciennes. Et notamment, on en a trouvé aussi en Charente, dans de l'ambre. Dans de l'ambre des Charentes, on a trouvé des premières plumes.
Et en même temps, la question est pertinente, parce que moi, je vous ai entendu dire, Renaud Alain, que finalement, le T-Rex était plus proche d'un canari que d'un crocodile. Et donc, si on est proche de quelque chose qui pouvait s'apparenter à un oiseau, il pouvait y avoir des plumes. C'est pas complètement incohérent.
C'est pareil, si on refait notre bond en arrière, qu'on revient à notre Proceratosaurus, là, puisqu'on était avec cet animal-là, cet animal devait avoir des plumes. Sauf que Proceratosaurus, il y a 165 millions d'années, ne devait pas mesurer plus de 3 mètres de long. Et la présence de plumes pourrait se justifier, c'est un animal qui pouvait réguler sa température grâce à ses plumes. Après, l'évolution a conduit à une augmentation de taille gigantesque pour arriver au tyrannosaure. Et le tyrannosaure, c'est un petit peu comme les poils chez les mammifères. Si vous prenez le rhinocéros ou l'éléphant, vous avez l'impression qu'il n'a pas de poils. Si vous vous approchez, vous allez voir qu'il y a encore des petits poils qui traînent de ci, de là. Et donc, peut-être que le T-Rex avait des petites protoplumes qui traînaient de ci, de là. Mais là, on a vraiment des preuves paléontologiques. On a des empreintes de peau trouvées à côté des squelettes qui nous montrent que, en tout cas, s'il y avait des espèces de protoplumes qui restaient, il y en avait très, très peu. Et l'animal doit être représenté plutôt avec des écailles.
Bonsoir, Christian.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Il existe plusieurs théories concernant la disparition des T-Rex et autres dinosaures, notamment la théorie de la météorite géante qui serait tombée au large du Yucatan et qui aurait provoqué un nuage de poussière qui aurait tourné autour de la Terre et fait disparaître donc la photosynthèse et la disparition des herbivores, puis enfin des autres animaux dans le cadre de la chaîne alimentaire. Mais cette théorie est quand même battue en brèche. Déjà, par exemple, les crocodiliens ont survécu, ils auraient dû mourir aussi. Et quels sont actuellement, en dehors de cette théorie de la météorite géante, les théories plausibles qui circulent et qui peuvent être valables ?
C'est pour vous, Bruno David. Merci beaucoup, Christian. Alors, l'extinction.
Je dirais que toutes les grandes crises de la biodiversité ont été multifactorielles. Alors, celle qui a vu l'extinction ou la pseudo-extinction des dinosaures, puisque les oiseaux d'aujourd'hui sont leurs descendants, donc ils ne sont pas vraiment véritablement complètement éteints, donc y compris celle-ci, a été multifactorielle. Il est avéré qu'il y a une météorite qui est tombée sur la péninsule du Yucatan au Mexique il y a 65 millions d'années. Elle a laissé des traces sur toute la planète. C'était une très grosse météorite, donc il n'y a pas de doute, la météorite est tombée. Mais le déclin des dinosaures était bien antérieur à la chute de cette météorite. Et l'image qu'on se fait des crises où on verrait une météorite qui tombe sur la tête des dinosaures, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Sans doute que la météorite a tué quelques-uns des dinosaures qui traînaient autour, à l'endroit de l'impact, mais ça n'a pas eu plus d'effet que ça. Un des facteurs essentiels de l'extinction des dinosaures, ça a été des changements climatiques très importants, notamment, qui sont dus à l'émission d'immenses émissions volcaniques en Inde, dans l'Inde de l'époque, qu'on appelle les trappes du Deccan, et qui correspondent à l'équivalent de 4000 mètres de lave sur la surface de la France. Donc vous imaginez 4000 mètres de lave sur la surface de la France, que ça représente comme émission de gaz dans l'atmosphère, comme changement climatique. Et puis il y avait des facteurs de distribution des continents, de changement climatique, il y a eu la météorite aussi, il y a eu tous ces facteurs, mais le déclin avait commencé bien avant.
Bonsoir Elliot.
Oui, bonjour.
Salut Elliot, vas-y, pose ta question.
Combien les T-Rex avaient de dents ?
Combien les T-Rex avaient... Les T-Rex, merci Elliot, combien les T-Rex avaient-ils de dents, Renaud Alain ?
Bah, j'ai honte, ça fait une semaine qu'on me pose la question, j'ai toujours pas révisé. On est aux alentours entre 60 et 70 dents à peu près dans une bouche de T-Rex. Donc c'est pas le plus important. Hein. Il y a des dinosaures, même des dinosaures herbivores qui ont beaucoup plus de dents que le T-Rex. Par contre, le Tyrannosaurus Rex avait des dents qui étaient assez phénoménales puisque les plus grandes...
C'est ça, la longueur.
Voilà, si on inclut la racine, en fait, quand on voit une dent de T-Rex, on voit la partie qui est sortie de la dent, qui peut faire jusqu'à 15 ou 20 cm. Mais de temps en temps, il faut penser que on a 20 cm de racine à l'intérieur de la mâchoire. Et quand on trouve des dents isolées, je crois que la dent la plus grande doit être aux alentours de 40 cm.
Et c'est pointu, c'est-à-dire c'est ça qui tue, ça se passe comment, en fait, c'est fait comment ce genre de dents?
C'est pointu, c'est aussi c'est solide. Si on regarde la morphologie, c'est des dents qui sont incomprimées latéralement, c'est des dents qui sont assez résistantes. Elles portent des carènes sur les côtés, des carènes qui sont dentelées, qui vont faciliter la pénétration de la dent dans la chair des provoproies. Et oui, c'est ça qui fait tout le travail. Ça, évidemment, associé à une mâchoire qui est hyper musclée, hein, puisqu'on est, on estime à 50 000 newtons plus ou moins la
force. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, et pas qu'on peut couper une vache en deux.
C'est
quand
ça,
on
c'est
est
à peu, c'est à peu près ce qui a été fait par les dernières estimations sont autour de ça.
Salut Alex. Alex, on écoute ta question.
Ma question, c'était, est-ce que le T-Rex était un prédateur ou un charognard?
Alors, merci Alex. Est-ce qu'il tue lui-même? Est-ce qu'il tue ce qu'il mange?
Alors, c'est étonnant, parce que je pense qu'Alex ne doit pas être si âgé que ça. Parce que normalement, c'est effectivement une question qui s'est posée énormément dans les années 90. Alors, c'est marrant, c'est Jack Horner, donc c'est le paléontologue qui était le conseiller de Monsieur Spielberg, qui l'avait mis plus ou moins au goût du jour, même si ça venait d'avant un petit peu en histoire des sciences, mais bref. Et donc, Jack Horner, pourtant, quand il a fait du T-Rex, l'a pas fait charognard. Et actuellement, tout le monde pense que le T-Rex était un vrai prédateur qui attaquait ses proies, ses gros dinosaures. Après, s'il trouve un dinosaure sur le bord de la route qui a l'air mal en point ou qui est déjà mort depuis pas longtemps, il devait quand même s'arrêter pour grappiller quelques morceaux.
Et dans le même ordre d'idée, bonsoir Miles. Bonsoir. Miles, est-ce que tu m'entends?
Oui.
Allez, vas-y, pose ta question.
Ma question serait, quel serait le dîner préféré du tyrannosaure?
Voilà, pour prolonger la question, qu'est-ce qu'il préfère manger? Bon, l'embarras du choix, c'est lui le dernier maillon de la chaîne dans la chaîne alimentaire, donc il peut y aller.
Mais là, je suis obligé de faire la publicité du muséum. Hein.
Allez-y, je vous en prie,
qu'on a exhumé
ça va être terrible
réserves,
pour nous, mais allez-y.
On a exhumé de nos réserves un dinosaure à bec de canard, qui s'appelle un adrosaure, et son petit nom est Edmontosaure. Donc,
Edmond.
On va l'appeler Edmond, hein, plus simple. Donc, cet Edmond fait 10
ce
mètres de long.
Ce pauvre Edmond, on peut dire.
Ce pauvre Edmond fait 10 mètres de long. On l'avait dans nos réserves depuis 1911. On l'a retrouvé grâce à Ronan Alain. Et c'est une bête magnifique. Et c'était vraiment le beefsteak du T-Rex. Donc, c'était un pauvre herbivore. C'était une sorte de gros lapin de 10 mètres. Et le tyrannosaure de 12,50 mètres s'en régalait. Et c'était sans doute une de ses proies favorites. Parce que ces dinosaures à bêtes de canard étaient quand même des bêtes assez placides. Et eux, avec une mâchoire franchement ridicule.
Et
par
en
rapport
troupeau
à celle
aussi, du coup, il avait
que
l'embarras du choix. Il pouvait manger 2-3.
Ceux-là vivaient sans doute en troupeau, oui, effectivement.
Bonsoir Thomas.
Oui, bonsoir.
Allez-y Thomas, on vous écoute.
Oui, ma question c'était, tout à l'heure vous avez expliqué comment vous feriez pour prouver qu'une espèce était une espèce sociable, notamment en retrouvant plusieurs cadavres au même endroit. Et du coup ma question c'est, comment est-ce que vous feriez pour prouver l'inverse, que qu'une espèce était une espèce solitaire?
Ah, c'est l'éternel problème de l'absence de preuves et de preuves de l'absence. Alors c'est très difficile de raisonner sur des choses qu'on n'a pas. C'est un petit peu le casse-tête de tous les paléontologues, quelles que soient les espèces sur lesquelles ils vivent. Effectivement, on cherche des preuves positives de ce caractère social-là. Après, il faut aussi voir qu'on travaille depuis près de 2 siècles. Donc il y a des animaux qu'on trouve systématiquement tout seul. Au bout de 2 siècles d'études, quand on a des animaux qu'on connaît par du matériel très important qu'on a trouvé à différents endroits, dans des conditions taphonomiques, c'est-à-dire dans des conditions d'enfouissement qui sont à peu près bien connues, c'est-à-dire qu'on a bien travaillé sur la fouille, on n'a pas juste pris les os, on a regardé ce qui se passait autour. On sait dans quelles conditions meurent les dinosaures. Donc, si on trouve un squelette tout seul tout le temps, au bout de quelques années, on va pouvoir sans doute poser l'hypothèse qui sera toujours à tester, de toute façon c'est notre lot commun, poser l'hypothèse que l'animal vivait seul. Et il y a des animaux, par exemple, on sait que les stégosaures en particulier devaient vivre seuls. On a d'autres gros herbivores où on n'a pas toujours des troupeaux entiers. C'est vraiment du cas par cas. Et en tout cas, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est jamais généraliser. Dinosaure, c'est un concept très très vague, c'est 220 millions d'années d'évolution. Et donc, ce qu'on observe chez un dinosaure, on ne peut pas le calquer sur tous les dinosaures. Il faut vraiment faire un cas spécial de chaque dinosaure.
On peut peut-être prendre l'exemple des iguanodons, non, qui sont des grands dinosaures avec des pouces absolument redoutables mm-hmm. et qui, là, ont été trouvés en troupeau, en tout cas.
Hein. D'accord.
Est-ce qu'ils sont morts ensemble? Il y a eu une hécatombe.
Qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs pouces? Pardon.
Ah bah, ils éventraient d'autres dinosaures avec,
avec leurs pouces.
Comme ça. Mais le T-Rex, d'ailleurs, c'était assez redoutable. Je ne sais pas si vous avez remarqué sa patte arrière. Ouais. Il y a trois griffes redoutables mm-hmm. vers l'avant, puis il y a un ergot vers l'arrière, comme un ergot de poule. Hein, mm-hmm. ça rappelle effectivement les oiseaux.
Ouais.
Et on se dit.
Et dans la démarche aussi, en fait, la manière de poser sa patte.
Oui, et puis on se dit qu'avec cet ergot gigantesque, c'est un véritable poignard. Hein. C'est presque aussi impressionnant que les dents. Hein.
Donc il va falloir poser la question des pattes avant, excusez-moi, mais à quoi servent les pattes avant?
Les deux espèces,
les toutes petites excroissances ridicules, à quoi ça sert?
Alors moi, je trouve que vous exagérez en disant que ce sont des excroissances ridicules. J'ai essayé de comparer mon bras, je fais 1m85, j'ai essayé de comparer la taille de mon bras avec la taille des pattes avant du T-Rex, et franchement, c'est pas moi qui gagne. Hein.
Ouais, mais vous pouvez faire un truc avec vos mains,
mais
par exemple,
vous pouvez
au moins à choper des choses, ou j'en sais rien, lui il peut rien faire.
En proportion, c'est vrai qu'en proportion, ça paraît un petit peu sous-dimensionné. Hein, on se dit, il ne devait pas marcher souvent à quatre pattes, ça c'est absolument certain, mais il devait quand même faire un certain nombre de choses avec ses pattes avant.
Il faut que le guidon de la mobilette soit très très resserré.
Mais ça reste une énigme quand même.
Ça reste une énigme, en fait, on arrive sur les limites de ce que la science peut faire. Alors, on peut poser des hypothèses aussi, on en a posé, on les a testées. Alors il y a des choses qui ne sont pas testables. Les premières hypothèses de Osborne qui avait décrit le T-Rex au début, il prenait ses pattes pour des crochets copulatoires, donc c'était censé servir à monsieur T-Rex à maintenir madame T-Rex au moment de l'acte. Après, on est revenu sur des choses.
Pas l'avenir bien fort, hein, pardon, mais.
Voilà. Après, on a commencé à regarder ce qui se passait, et puis on s'est dit quand même, les doigts sont ridicules, certes, mais ils sont quand même au bout de bras, comme disait Bruno David, qui sont quand même assez costauds, et il y a des insertions musculaires. Mmh. Et donc, il y a des gens qui ont des hypothèses qui sont pas inintéressantes, qui parlent de peut-être l'animal pouvait faire des espèces de pompes, et il faut savoir que les reptiles, quand ils dorment, ils sont au sol. Donc, il faut imaginer notre tyrannosaure en train de dormir, paisiblement au sol, comme des poules, et après, il faut se relever. Donc, une poule, ça peut se relever en utilisant ses pattes. Le T-Rex, peut-être que ces deux petits bras, ces deux petits membres antérieurs permettaient de faire une petite poussée pour qu'ils puissent se remettre.
Parce que la tête était lourde quand même.
Oui, visiblement. Il y avait des grandes dents qui effectivement devaient être aussi très lourdes à porter. Question en rafale sur franceinter.fr, comment on sait que c'est une femelle?
Comment on sait que c'est une femelle? Alors les femelles pondent des œufs, on en a parlé tout à l'heure, et en pondant des œufs, elles vont réutiliser une partie du matériel de l'os, en fait, au niveau du fémur en particulier, donc ce qu'on appelle l'os médulaire, et réutiliser pour fabriquer les œufs. Et donc les fémurs des femelles sont censés être plus robustes que ceux des mâles. Et comme on a deux morphes chez les tyrannosaures, on estime que le morphe robuste est celui de la femelle.
Quand je mange du poulet, suis-je en train de manger du dinosaure?
Ah oui.
Bah, voilà.
La réponse est simple.
du petit dinosaure, mais du dinosaure quand même.
Dinosaure,
ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont
dinosaure.
Pas vraiment disparu,
descendants
du dinosaure.
Techniquement parlant, ils n'ont pas disparu. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui a un ancêtre commun unique qui rassemble à la fois les dinosaures et les oiseaux. Les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Et on a trouvé énormément de dinosaures avec des plumes. Hein. Moi, je me souviens avoir vu dans des collections chinoises, notamment, de dinosaures originaires de Chine, des plumes magnifiques qui ont même conservé, propagé leur couleur. Donc, c'est vraiment très impressionnant de voir ça avec des plumes un peu bleutées et de taille respectable.
Hein. Et du coup, Jacques nous demande pourquoi ils ne pouvaient pas émettre des sons comme les oiseaux, puisque ce sont des dérivés d'oiseaux.
Ils émettent des sons, hein. Mais en tout cas, ils n'émettent pas des sons en nous ouvrant la bouche. Enfin, a priori, on peut penser à un crocodile peut émettre des sons assez bruyants. Au muséum, on a des tortues des Seychelles. Je peux vous dire qu'à certaines périodes de l'année, elles sont très 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 bruyantes. Mmh. Et pourtant, quand vous voyez une tortue, on pourrait croire que c'est très discret. Donc non, les reptiles peuvent émettre des sons. L'idée, c'est juste qu'ils émettent des sons, mais là, sans doute la bouche fermée. Et voilà. Maintenant, quels sons ils émettaient?
Est-ce qu'on a une idée de la vitesse de déplacement du T-Rex? Oui, on le sait, ça.
On le sait sans le savoir véritablement parce qu'on n'a que quelques empreintes qui ont été trouvées en Colombie-Britannique. Donc il y a quelques empreintes qui traînent. On les a attribuées au T-Rex. Malheureusement, pour pouvoir estimer la vitesse d'un dinosaure, il faut trouver des empreintes d'un animal en train de courir. Mmh. Après, c'est très facile à faire. Là, on a des empreintes, on a la taille des empreintes, on a la taille de l'enjambé, donc on sait comment il marchait. Après, il est quand même très limité par sa taille et son poids. Et donc on est revenu, on était à un moment à 40 km/h. On est plutôt actuellement sur des estimations rotation autour d'une vingtaine de kilomètres heure.
Donc voilà, c'était plutôt un marathonien qu'Usain Bolt. Voilà.
C'est ça.
Mais quelque chose de très ludique d'ailleurs au Musée National d'Histoire Naturelle, parce que j'y ai joué moi. Si vous montez sur un vélo, si vous roulez à moins de 20 km/h, vous vous faites manger. Et je
et vous
le
vous
dis,
êtes
j'ai été
manger.
Bouffé. Voilà. Cette question sur franceinter.fr encore, c'est celle de Valérie. Est-ce que l'environnement explique cette différence incroyable entre le petit qui sort de l'œuf et l'adulte? Parce qu'aujourd'hui, une différence pareille n'existe plus.
Ouais, moi, je pense que quand on pond des œufs, nécessairement, on ne va pas faire des œufs gigantesques non plus, hein, même une autruche. Alors, finalement, proportionnellement à la taille, il n'y a pas autant de différence. Mais si on pense aux reptiles, hein, pour revenir sur les reptiles, les crocodiles, ça pond des œufs quand même tout petits par rapport à la taille de l'animal. Si on pense aux pontes de tortues, ces fameuses pontes de tortues où on voit toutes les bébés tortues qui se carapatent sur les plages, là, sont des œufs microscopiques par rapport à une énorme tortulute. Donc il y a un différentiel de taille qui est important et qui est sans doute hérité de leurs ancêtres reptiliens.
Tiens, j'ai une dernière question avant qu'on retourne au standard. Question de Fabienne S. de Paris. Est-ce qu'il était stupide? Parce que son cerveau est très bizarre, assez petit par rapport à la taille de la tête, et puis alors d'une forme assez bizarre. Est-ce que c'est un animal stupide ou pas? Ou est-ce que ça pense un peu?
En fait, il a une forme de cerveau tout à fait commune pour la plupart des animaux. Okay. C'est nous qui avons une forme de cerveau qui est complètement hallucinante. il a un tout petit cerveau qui est plus petit en termes de volume qu'un cerveau humain. Par contre, on peut observer quelques zones du cerveau qui sont plus développées que d'autres, en particulier au niveau des lobes olfactifs.
Mais est-ce qu'il y a un peu d'intelligence? Donc, pour chasser, par exemple, il faut savoir... Lobe olfactif, vous dites que ça veut dire qu'il a un odorat puissant?
Il a un odorat puissant et après, bah, a priori, on a trouvé 50 T-Rex, donc il était assez intelligent pour arriver à se reproduire, à se nourrir et puis à prospérer sur un territoire aussi grand que l'Amérique du Nord.
Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Patrick, allez-y.
Oui, je voulais savoir si parmi les proies potentielles du T-Rex, il y en avait qui étaient capables de se défendre, voire de lui infliger des blessures plus ou moins graves.
Merci beaucoup Patrick. Bruno David, est-ce qu'il avait quelques ennemis quand même? Est-ce qu'il pouvait être en danger?
Oui, il pouvait être en danger. Il y avait notamment des triceratops, hein, qui vivaient d'ailleurs en groupe, hein, je pense, qui sont ces dinosaures avec une énorme collerette et puis des cornes vers la collerette, qui ressemblent en fait à d'énormes rhinocéros, si on peut faire une sorte de comparaison avec un animal actuel, hein, mais c'est évidemment une comparaison qui n'a pas tellement de sens au niveau de l'évolution. Et donc les triceratops, c'est des animaux très puissants qui étaient capables d'infliger des blessures aux T-Rex. Et je ne suis pas certain que les T-Rex s'intéressaient d'ailleurs beaucoup aux triceratops parce que c'était vraiment des animaux redoutables. Il y avait aussi des dinosaures qui avaient des queues redoutables et qui s'en servaient comme de masse d'armes en quelque sorte. Et là, ils pouvaient infliger aussi des blessures
donc au top de la chaîne alimentaire, mais quand même fragile en fait.
Ben, on pense d'ailleurs que les côtes fracturées de notre T-Rex, parce qu'il faut aussi revenir à notre finalement.
Mais oui, le vôtre, hein. Trix. La vôtre.
À 7 individus précis, on peut imaginer que ces fractures des côtes aient pu être infligées par un herbivore récalcitrant au moment d'une attaque infructueuse. On peut toujours rêver, hein, on peut toujours imaginer ce scénario. On n'a pas de preuves, hein, c'est pas très scientifique de le faire comme ça, mais on peut quand même le faire.
Mais le fait, Renaud Alain, d'être en haut de la chaîne alimentaire, est-ce que c'est pas finalement une forme de fragilité quand on y songe ou
pas? Ah, c'est une forme de fragilité. On parlait de l'extinction tout à l'heure des dinosaures. C'est une forme de fragilité. On sait que quand on a des crises de biodiversité, les premiers animaux qui en pâtissent, déjà, ce sont les producteurs qui sont tout en haut, hein, parce que dès qu'il y a un problème en dessous, ça va plus en haut. Ouais. Et puis, on sait que les gros animaux disparaissent. Donc, pour revenir aussi tout à l'heure à la question de l'auditeur, sur qu'est-ce qui se passe au moment de la crise crétacé-tertiaire, on comprend pas la sélection qui se passe au niveau, pourquoi des animaux disparaissent alors que d'autres ne disparaissent pas. Par contre, il y a une chose quand même qu'on observe, c'est que tous les gros animaux disparaissent. Donc voilà, il y a une fragilité à être un animal gros, imposant, parce qu'on a besoin de plus de ressources pour vivre et que, bah, par définition, lors d'une crise de biodiversité, il y a des changements du milieu qui sont assez importants.
Et la nourriture manque, voilà, donc du coup...
ils conduisent à la extinction.
Bonsoir Loumen.
Oui,
sois la bienvenue Loumen, pardon, vas-y, on t'écoute.
C'était pour savoir de quelle couleur étaient les T-Rex et s'ils pouvaient avoir plusieurs couleurs et de quelle couleur ils étaient, parce que je sais qu'en général, on les représente vert foncé ou marron.
Eh ben merci pour cette question Loumen, vert foncé ou marron. Et d'ailleurs, c'est une bonne question, est-ce qu'ils sont tous de la même couleur? Est-ce qu'il y a un petit côté caméléon derrière parfois ou pas du tout?
Avant de laisser Renan Alain répondre, je peux dire que dans l'exposition, on a le droit de peindre un T-Rex de la couleur qu'on veut.
Ouais.
C'est une phase un petit peu
amusante
de l'exposition.
Mais on peut les faire fuchsia, et vous n'allez pas me dire qu'il y en avait des fuchsia.
On peut les faire à carreaux, on peut les faire un peu de toutes les couleurs. Ça veut bien dire qu'on ne sait pas trop de quelle couleur ils étaient, mais je vais laisser Renan Alain répondre plus précisément à la question.
Alors, pour la couleur de la peau, non, effectivement, on ne sait pas exactement. La seule chose qu'on peut faire, c'est regarder ce qui se passe dans la nature actuelle. Alors, est-ce qu'il y avait déjà des tyrannosaures de couleurs différentes? probablement, il devait y avoir des différences de couleur peut-être entre les mâles et les femelles. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement imaginer. Après, malheureusement, voilà, les petits organites qui donnent la couleur aux écailles, on les retrouve pas. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas eu d'études de fait et c'est quelque chose qui pourrait être conduit, ça. Récemment, on a étudié des animaux complets dans lesquels on a encore le sédiment, des traces de peau, et on regarde un petit peu la répartition de certains éléments qui pourraient servir de pigment, et on pourrait peut-être retrouver. Je ne sais pas si quelqu'un tentait de le faire. Donc pour l'instant, les seuls dinosaures dont on connaît vraiment la couleur, ce sont des dinosaures à plumes, pour lesquels on retrouve les petits organites, qu'on appelle des mélanosomes, qui vont colorer les plumes. Et donc là, on peut aider un petit peu les artistes à leur dire « Ah ben non, là, il avait des bandes plus ou moins sombres ou claires, on peut retrouver des patrons de couleurs. » Mais la couleur exacte, c'est très difficile à dire.
On peut aussi s'interroger sur savoir si ce sont des couleurs de type pigment, donc relativement unis, comme ce qu'on a l'habitude de connaître, ou si ce sont donc des couleurs qui sont liées à la diffraction de la lumière, comme les couleurs d'ailes de certains papillons ou de certains insectes qui nous apparaissent irisés. Parce que quand on pense par exemple à un lézard vert, on voit bien que c'est une couleur irisée. Il y a certains lézards aujourd'hui qui ont des couleurs très irisées, qui sont liées à la diffraction de la lumière à travers un réseau, qui est le réseau des écailles de ce animal.
Mais donc ça dépend aussi du climat dans lequel ils vivent, ou pas ? Est-ce que la couleur peut dépendre du climat dans lequel ils vivaient ou pas du tout ?
Probablement, ça va dépendre de la taille des dinosaures aussi qu'on va considérer. Donc il y a tout un tas de facteurs, c'est pareil, hein, c'est très multifactoriel ces histoires-là. Après, la couleur camouflage dont on parlait tout à l'heure...
Vous voulez dire treillis militaire.
Voilà, quand on fait treillis militaire, mais qu'on fait 12,5 mètres de long et 4 mètres de haut, je suis pas sûr que les tyrannosaures se cachaient derrière les arbres pour essayer de surprendre les tricératops.
Donc
je pense pas vraiment qu'ils avaient besoin d'avoir des couleurs... Ils peuvent se permettre d'avoir des couleurs vives... Le cachet.
On peut les imaginer avec des couleurs de mésange bleu, par exemple.
C'est plus poétique.
Ce serait formidable. Charlie, c'est vous qui allez clore le téléphone sonne avec la question qui tue. On vous écoute.
Oui, bonsoir. Ma question, elle est assez simple. Elle est liée à Jurassic Park, donc qui a stimulé tant notre imagination quand nous étions jeunes. C'était de savoir s'il est possible, s'il est envisageable un jour de faire renaître les dinosaures. Je crois que dans le film, c'est un moustique dans lequel il y a de l'ADN et qui était piégé dans la résine. Et donc, si c'est pas possible, pourquoi ? Voilà, merci.
Merci, Charlie. Bruno David, cassez les rêves de Charlie, je vous en
non,
prie.
Non, là, vraiment, je vais à la fois vous rassurer ou casser votre rêve, je ne sais pas, hein, mais c'est pas possible de faire renaître un dinosaure parce qu'il faudrait avoir son code génétique pour le faire renaître. Et comme on le disait tout à l'heure, dès qu'un animal meurt, son ADN se dégrade. Il y a des enzymes qui vont casser l'ADN, qui vont le fragmenter en tout petits morceaux. Il va finir d'ailleurs par se disparaître complètement. Et il n'y a aucune chance de trouver de l'ADN de dinosaure, même dans un moustique piégé dans l'ambre, qui aurait sucé du sang de dinosaure.
On ne peut pas mettre dans une cave et
déjà
après créer
un
parc d'attraction.
Il faudrait déjà imaginer
c'est
un moustique
nul.
Capable de percer la peau du T-Rex, qui n'est déjà pas très évident.
Merci beaucoup, merci pour ces nombreuses questions, c'était formidable. Merci à vous évidemment d'avoir participé à ce téléphone sonne. Je rappelle que le T-Rex, la T-Rexesse, qui s'appelle Trix, est au Muséum National d'Histoire Naturelle, donc à côté du Jardin des Plantes à Paris.
En l'honneur de la reine Béatrix.
Elle-même,
c'est
absolument.
Ça qu'elle s'appelle Trix.
Eh bien écoutez, vous me l'apprenez, Sophie, oui, merci beaucoup.
En fait, ce dinosaure, il fait son European Tour là, en ce moment.
Exactement.
Et il appartient à un musée hollandais.
Exactement, il rentrera au musée hollandais dès qu'il sera fini d'être remis en place. Ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 2 septembre, donc tout l'été pour aller voir la bête.